Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 19 avril 2018. Peut-on le croire que nous sommes au 19 avril?
On essaye.
C'est ça que tu viens de dire.
Ah oui, et c'est Monique Kerouac au micro. Bien sûr, en compagnie de Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie et d'Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Et de Maurice derrière notre régie. Merci Maurice d'être là. Alors aujourd'hui Marie, de quoi allons-nous parler?
Alors moi je vous parle de mathématiques aujourd'hui.
Ah oui.
Comment on fait pour enseigner le signe d'égalité aux petits dans un premier temps? Et puis je vais vous parler d'un appel d'offres qui est proposé pour aller chercher des sous pour améliorer ou embellir les cours d'école.
Wow!
Oui. Mmh.
Ah. Et Yvan, de ton côté?
Moi, de mon côté, dans les dernières semaines, je vous ai parlé de choses qui étaient accessibles pour pas mal tout le monde.
Oui.
La semaine dernière, en particulier, la marche.
Oui.
Mais pas cette semaine. Cette semaine, je vous parle de deux exploits, de deux projets hors de notre capacité.
Hors norme, mais qui en valent la peine. Oui. Mmh. Et de mon côté, écoutez, c'est un article que je vais lire en deux parties. Et c'est sur les recherches qui se penchent sur la méditation.
Oh, ça c'est intéressant.
Alors, ben, c'est parti.
Oui.
Alors, Yvan. Un premier exploit, défi ou en fait situation hors de l'ordinaire qui va nous donner de l'énergie, je pense.
Oui, dans tous les sens du terme. C'est pas encore un exploit parce que c'est pas terminé.
Non, c'est à venir.
C'est commencé, mais c'est définitivement un défi.
D'accord.
Alors, l'article que je vais vous lire, ça s'appelle « Électron, la nouvelle aventure » de Caroline Côté. Électron, ça s'écrit E minuscule L-E-C-T-R. O majuscule, N majuscule. Alors, je fais un appel à tous. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire pourquoi c'est écrit comme ça, je n'ai pas réussi à le trouver, mais quand même. C'est un article de Véronique Champagne dans le Journal de Montréal du 4 avril 2018, mais j'ai trouvé d'autres articles sur ce défi-là, même hier dans la presse. L'aventurière montréalaise Caroline Côté se lance dans sa première expédition en solitaire de Natashquan à Montréal en 2000 km en ski, à la course, en vélo, en trek et en surprise.
C'est un moyen de transport que je ne connais pas ça, les surprises.
Non, puis on ne peut pas se préparer à ça. On se rejoint, la journaliste et Mme Côté se sont rejoints dans un café de Verdun la veille de son départ pour Natashquan. Je la sens plus nerveuse que lors de nos dernières rencontres. Électron est sa première aventure en solitaire. Jusqu'à ce matin, je me disais que ce serait de la détente de me retrouver seul avec moi-même pendant 80 jours et 2000 kilomètres. Mais ce matin, j'ai des appréhensions devant cette solitude imposée, raconte l'aventurière de 31 ans. La jeune femme a déjà participé à plusieurs expéditions majeures. Le XP Antarctique, XP pour expédition, une traversée de l'Atlantique à la voile et 30 jours en autonomie sur la péninsule Antarctique en 2014, Pole of the North, 3200 km de canot à travers le Yukon en 2016. Kwamanik en 2017, ça c'est 100 km de course en sentier, jusque-là c'est pas pire.
Ben quand même.
Quand même. Dans la toundra arctique pour aller rencontrer des femmes inuites. Caroline avait un petit trou avant sa prochaine aventure, prévue en 2019. C'est le Sea to Ice Arctic, qui inclut une épopée en voilier, du trek en montagne et de la grimpe, dans lequel s'est faufilé le projet Électron. C'est Hydro-Québec qui l'a approché pour cette aventure. Elle recherchait quelqu'un qui soit capable de le faire et de le rendre en image, dit la réalisatrice et cinéaste d'aventure. La société d'État ne s'est pas trompée. Le but du jeu? Suivre les lignes électriques d'Hydro-Québec d'est en ouest jusqu'à Montréal sans jamais les perdre de vue afin de représenter en image le long chemin que mène un électron en moins d'une seconde pour aboutir dans nos maisons.
Alors, en plus, elle aura le nez rivé vers le ciel?
Pas nécessairement le ciel comme l'horizon.
L'horizon?
Ouais. Une idée de campagne a priori charmante qui, on le devine, exige un peu plus de réflexion lorsqu'elle quitte la salle de brainstorming de l'agence. Samuel Ostigui me montre une carte, me montre sur une carte le chemin en question, strié d'une centaine de rivières à franchir. Caroline est allée chercher l'expertise de son ex-collègue de XP Antarctique et ami de cerner, je sais pas si là c'est un ami, enfin, afin de cerner la possibilité de réussir une telle expédition seule. L'architecte d'aventure a eu la mission de tracer un itinéraire sécuritaire dans un rayon d'au plus 10 km des lignes électriques. On s'en éloigne de pas plus de 3 km, précise-t-il, visiblement fier. Samuel s'est aussi assuré que la planification de l'expédition, son monitorage sur place et les plans de sécurité en cas de pépin soient de béton. Contrairement à Caroline, l'électron n'a pas à gérer les risques associés au terrain, comme la traversée des cours d'eau et les surprises inévitables sur son chemin qui l'éloigneront du tracé prévu, ni à craindre ceux liés à la faune. Les ours sortiront à peine de leur hibernation et ils seront particulièrement protecteurs de leurs bébés.
Ouais.
Le danger le plus sérieux, selon les deux aventuriers, demeure toutefois le froid. Puis là, elle a fait plein d'affaires en Antarctique, c'est ça qui me fascinait. « Je suis un peu frileuse, » dit Caroline.
Ben, mon Dieu!
Qui n'en est pourtant pas à sa première expédition par température hivernale. « Quand on a des coéquipiers, on peut toujours s'entraider pour se réchauffer en cas de besoin, » nous dit-elle. « Tout sportif sait que pour ne pas prendre froid, il faut rester au sec. L'humidité est l'ennemi à éviter. Caroline devra traverser des rivières. » Et au printemps, la neige fond, le sol est boueux, l'eau est partout, explique Samuel Ostigui. Tu échappes ton sac à dos et tout devient trempé. Faire un feu dans ces conditions, c'est moins facile. Il n'était pas question pour l'équipe de se simplifier la vie en partant quelques mois plus tôt. L'hiver aurait alors assuré une progression simplifiée du ski et la traversée de rivières gelées. En partant début avril, on va pouvoir partager les beautés du Québec sur pratiquement trois saisons. On prend le départ en hiver à Natashquan et on arrive en été à Montréal, si on a un été aujourd'hui, cette année. 15 points de ravitaillement seront sur son parcours afin que l'aventurière puisse faire le plein d'énergie, de vêtements secs et de social. Son parcours sera aussi ponctué de quelques rencontres auprès des communautés voisines des lignes. Ces moments me nourrissent. J'aime aller sur le terrain vers les gens qui vivent des réalités différentes. Quand on déconnecte, ça c'est drôle, un drôle de mot dans les circonstances, quand on déconnecte, on connecte mieux avec soi-même et aussi avec les autres. Je lui demande si elle ne trouve pas ironique de suivre la construction humaine en pleine nature sauvage, une mission en marge de celle habituellement préconisée en expédition. Ça fait partie de notre identité et de notre histoire. Tous ces monteurs de lignes, ce sont de véritables guerriers, nous explique Caroline Côté. Personne ne trouve que les lignes électriques embellissent le paysage, mais quand on se questionne sur ce que leur présence symbolise pour notre société, c'est quand même vraiment impressionnant, ajoute Samuel Ostigui. On s'est posé comme défi d'aller le plus loin possible où il y a de l'eau, même si c'est complexe, pour en faire profiter notre société. Caroline Côté suivra ce même chemin, même si c'est complexe, pour qu'on puisse parcourir cet héritage culturel et naturel avec elle. C'était l'article « Électron, la nouvelle aventure » de Caroline Côté dans le Journal de Montréal du 4 avril. Et j'ai même reçu sur Internet une annonce de Hydro-Québec, parce que je paye mon électricité, sur cette aventure-là. Ah, oui. Fait qu'on peut la suivre de façon régulière sur le site de Hydro-Québec.
Ce que nous ferons. Merci beaucoup, Yvan. Alors, Marie,
oui.
Égalité, pas parité, mais égalité en mathématiques.
Oui, c'est ça. Alors, donc, des astuces pour enseigner le signe d'égalité, ce petit signe qu'on met dans les opérations mathématiques, le signe égal. C'est un texte de Kiera K. Vaccaro et Anne Laffey, publié sur le site parlonsapprentissage.com le 11 avril. L'abondante présence dans notre vie quotidienne des symboles arithmétiques de base, tels que les symboles d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et d'égalité fait en sorte que nous sommes familiers avec leur emploi et leur signification. Notre exposition continue à ces signes a rendu leur usage automatique. Par conséquent, nous oublions parfois que les enfants ne sont pas aussi familiers avec ces symboles et leur signification. Par exemple, plusieurs enfants comprennent bien que le symbole « plus » veut dire qu'ils doivent additionner les nombres qui se trouvent de chaque côté de ce symbole. D'autres, en revanche, ont une connaissance superficielle des symboles arithmétiques et certains en ont même une perception erronée. Cette perception erronée est d'ailleurs fréquente pour le symbole d'égalité, le symbole égal. La recherche scientifique explique qu'il y a deux façons d'interpréter le symbole d'égalité. Celui-ci peut être interprété de manière relationnelle ou de manière opérationnelle. Lorsque les enfants conçoivent le symbole d'égalité de façon relationnelle, cela veut dire qu'ils perçoivent ce symbole comme étant un symbole qui indique une relation entre deux quantités égales. Et c'est cette relation qu'il faut privilégier chez les enfants. Par contre, la majorité des enfants ont plutôt une conception opérationnelle du symbole d'égalité. Ça signifie que lorsqu'ils voient le signe d'égalité dans une phrase mathématique, ils assument que la réponse doit suivre ou qu'ils doivent la trouver. Alors, ils se mettent en mode opérationnel. Ils font une opération. Ils veulent la faire. Cette fausse compréhension limite les enfants dans leur pensée mathématique et est souvent la cause de difficultés lors de l'apprentissage de concepts plus avancés. La majorité des phrases mathématiques qui sont présentées dans les cahiers d'exercices sont des phrases mathématiques dites conventionnelles. Par exemple, 1 plus 2 égale 3. Marie et les chiffres. Ça va bien. Ou bien
c'est pour ça que tu es une spécialiste des langues.
Tout à fait, oui, c'est ça. Alors, je reprends des phrases mathématiques conventionnelles comme 1 plus 2 égale 3 ou 1 plus 2 égale, et là, il y a un espace vide, il faut trouver la réponse. Les recherches démontrent que lorsque les élèves se retrouvent devant des phrases de type non conventionnel, comme par exemple 3 égale 2 plus 1 ou 3 égale 3, c'est une phrase mathématique, ou 1 plus quelque chose, qui n'est pas écrit, égale 3. Ça, c'est des phrases non conventionnelles. Et à ce moment-là, les enfants, ou certains enfants, deviennent confus et jugent même qu'elles sont fausses. Les chercheurs Sherman et Byzance ont réalisé deux études avec des élèves de deuxième année pour déterminer si les enfants ont une compréhension du concept d'équivalence indépendante des symboles arithmétiques et si leur compréhension bénéficierait d'une expérience dans un contexte non symbolique, c'est-à-dire avec des objets concrets. Dans leur première étude, ils ont exposé un groupe d'élèves à des phrases mathématiques en format symbolique, avec des symboles, donc arithmétiques, et un second groupe aux mêmes phrases mathématiques dans un format non symbolique, donc avec des objets concrets. L'étude de Sherman et Byzance a révélé que lorsque les enfants résolvaient des problèmes avec des objets plutôt qu'avec des symboles, ils démontraient des taux de précision impressionnants et ils fournissaient des justifications relationnelles pour leurs solutions. Cependant, sous le format symbolique, les enfants avaient une précision médiocre et adoptaient une approche de type opérationnel. Les résultats de cette recherche montrent que les enfants du deuxième groupe, donc ceux qui travaillaient avec des objets concrets, ont résolu deux fois plus de problèmes correctement et qu'ils ont donné trois fois plus de justifications d'équivalence que les enfants du groupe symbolique. Pour aller plus loin, ces chercheurs ont mené une étude complémentaire qui indique que les élèves ayant résolu les problèmes dans le format non symbolique, donc toujours avec des objets concrets, en premier, ont par la suite résolu beaucoup plus de problèmes symboliques correctement, comparativement aux élèves ayant débuté par le format symbolique. Ça suggère que l'expérience avec des problèmes d'équivalence non symbolique peut conduire à des améliorations en ce qui a trait aux problèmes d'équivalence symbolique. Et en seconde partie d'émission, je vous lirai la suite de ce texte et nous verrons comment on peut enseigner le concept d'équivalence et le signe d'égalité aux enfants du primaire. Yvan, tu as une question.
Oh, aux enfants du primaire.
Du primaire.
Je me demandais quel âge avaient les enfants dans l'étude.
Ils sont petits et dans l'étude dont on va parler plus tard, ils sont en deuxième année.
OK.
Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
Plaisir.
On est pas mal plus savants le signe égalité. Opérationnel, relationnel, ouais. Conventionnel, non conventionnel. Ça fait quand même beaucoup de concepts.
Oui. Oui.
Hello Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
Rachida, accompagnée de Gaétan Roussel, nous chantait « Bonjour ».
Merci beaucoup, Maurice. Alors, sous la plume de Jean-Baptiste Veneira, pour la revue Science et Vie de mars 2018, un article qui s'intitule « Méditation ». Elle agit sur le cerveau, sur les cellules et l'ADN. Je pique votre curiosité,
oui.
J'espère.
Et notre intérêt. Oui.
Alors, s'asseoir en tailleur à l'écart de la rumeur du monde, se concentrer sur sa respiration, laisser son esprit s'apaiser et sentir qu'on accède peu à peu à un état de conscience aiguë de ses propres émotions, pensées et perceptions, au point de pouvoir les observer de manière détachée, comme un flot s'écoulant hors de soi, et atteindre alors un état de sérénité, de bien-être. Avant de revenir au monde comme régénéré, ainsi décrite par ceux qui la pratiquent, la méditation a tout d'une expérience personnelle et subjective à mille lieues des critères objectifs de la démarche scientifique. Et pourtant, chaque jour, 3 ou 4 articles scientifiques paraissent sur le sujet. Le nombre de publications qui en font un objet d'étude a multiplié par 10 en 15 ans. Une passion scientifique qui porte ses fruits. Désormais, la science est en mesure de dessiner avec précision, inédite, les contours de la méditation, l'un des états de conscience les plus fascinants qui soient. Ce faisant, les chercheurs lèvent le voile sur l'une des grandes énigmes de la physiologie humaine, le pouvoir de notre esprit sur notre corps. Et on en a besoin pour accomplir des exploits, n'est-ce pas, Yvan?
Tout à fait, oui.
Car sans lui, comment expliquer que l'état méditatif puisse induire durablement des changements aussi fins que des modifications chimiques de l'ADN et aussi profonds que le renforcement de certaines zones cérébrales? Deux résultats fascinants parmi une avalanche d'autres obtenus par la science de la méditation, laquelle repose sur des technologies dernier cri d'imagerie cérébrale et de génomique. Surtout, elle convoque des disciplines aussi pointues et éloignées que la neurobiologie, la biologie cellulaire ou moléculaire. La question captivante de la réalité d'un état méditatif a commencé à attirer les chercheurs dès les années 1970, quand le biologiste américain John Cabot Zinn, son nom de famille, donc Z-I-N-N. Oui. On entend souvent Kabat-Zinn, Kabat-Zinn. Là.
Oui.
Alors, importe cette pratique d'inspiration bouddhiste, largement plébiscitée par les mouvements New Age, dans l'hôpital universitaire du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le MIT, afin d'aider des patients à relâcher la pression. Le chercheur dépouille la méditation de ses visées religieuses et spirituelles pour n'en garder que le côté pratique. Cette technique laïque, appelée en anglais MBSR, pour réduction du stress par la méditation pleine conscience, est désormais étudiée et employée dans 800 centres hospitaliers de par le monde et fleurit aussi bien dans les entreprises, dans les écoles que dans l'armée.
C'est sérieux.
Hein? Ah, c'est très sérieux. Ouais. Et même, on l'enseigne actuellement à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Au point que la MBSR fera figure de panacée. Dépression, douleur, troubles du sommeil, addiction, elle guérirait de tout, selon les adeptes. Pour faire la part de l'engouement démesuré, la science de la méditation cherche à confronter expériences subjectives et objectives réalisées en laboratoire. Dès les années 1980, le Dalai Lama, en personne lui-même, a favorisé un tel rapprochement en collaboration avec le neuroscientifique et philosophe Francisco Balera. Mais en quoi consiste au juste la méditation? Première difficulté, le terme cache une grande famille de méthodes complexes de régulation des émotions et de l'attention, mises en œuvre à des fins variées. Les scientifiques classent ces pratiques en trois grands groupes. L'attention focalisée, la méditation compassionnelle et la pleine conscience. Cette dernière, qui est au cœur de la méthode MBSR, est de loin la plus étudiée aujourd'hui par la science. À la différence de l'hypnose et de l'auto-hypnose, où le champ attentionnel se focalise sur des pensées suggestives, tel un mantra, la pleine conscience s'ouvre à tout ce qui vient. Quels effets, dès lors, la pleine conscience produit-elle chez ceux qui la pratiquent régulièrement? Se limite-t-il aux instants passés à pratiquer ou se prolonge-t-il bien au-delà? Les psychologues ont cherché à sonder l'état mental des méditants à différents moments de leur pratique et de leur vie. Mais ces résultats, issus de questionnaires remplis par les participants, demeurent incertains. Les effets comportementaux et psychologiques sont difficiles à caractériser car ils reposent sur des évaluations subjectives. Alors, plutôt que de chercher à décrire des états psychologiques induits par la méditation et afin d'évaluer de manière plus objective cet état de conscience modifié, les neuroscientifiques, comme Yi Yuan Tang ou Antoine Lutz, ont pris le relais, s'appuyant sur un allié de poids, l'imagerie cérébrale. Mm-hmm. On en a déjà parlé, mm-hmm. ces petits engins qu'on place sur notre cerveau. Mm-hmm. Des régions du cerveau s'activent-elles plus que d'autres lorsqu'on rentre en pleine conscience? D'autres réduisent-elles leurs activités? Ces régions subissent-elles des changements du fait d'une pratique régulière? À ces questions, l'imagerie cérébrale a apporté des réponses étonnantes. Et je resterai en point de suspension.
Les réponses
étonnantes. Nous en parlerons après la pause.
Oui. Le premier salon de l'apprentissage aura lieu le week-end prochain à Montréal. Au total, une centaine d'exposants présenteront aux parents et aux intervenants des outils concrets pour accompagner les jeunes dans leurs apprentissages. Grâce à des jeux, des ressources ou des conseils particuliers, le public pourra assister à plusieurs conférences. On abordera notamment les questions de l'anxiété, de la prévention des difficultés en lecture ou en écriture et le passage du primaire au secondaire. C'est intéressant.
Tout
allez-y,
à fait.
21-22 avril, de 10h à 17h, à la Place Bonaventure.
Ah, puis est-ce qu'il faut payer quelque chose?
Je ne sais pas.
Vous savez pas.
Mais c'est accessible.
Mais
par
c'est
le
accessible,
métro.
Oh, oui. Tout à fait.
Voilà. Non, puis c'est important.
Excellent. Cher Yvan?
Oui, de mon côté, je vous fais une suite à l'article que je vous ai lu tantôt. C'est une des premières réactions de Caroline Côté sur son projet. Les premiers jours ont été épuisants sur le plan physique et émotionnel, notamment en raison des conditions rigoureuses. La nuit, avec tous les vêtements que je mets dans mon sac de couchage, dans ma petite tente, je n'emmène pas large. Je me fais mettre à ma place. Elle s'attend à ce que le trajet entre le Saguenay et l'Atuc constitue un autre défi important. C'est une partie très longue en forêt, à la fin de la période où c'est encore un peu enneigé. Ça va être la partie la plus longue, sans voir personne, soit environ 13 jours. Au point de vue des communications et des ravitaillements, ça va être très restreint. Elle s'attend à s'attaquer à ce secteur vers la mi-mai.
Eh bien. Alors, chers amis, je pense qu'on prend une petite pause et on se retrouve après la pause. Donc, on parlera de méditation, on vous parlera à nouveau de mathématiques et d'égalité, et encore une fois d'accomplissement hors du commun. Alors, revenez-nous.
Des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie et des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie, je n'en ai plus. Ceux qui m'ont choisi à leur manière. criant mon nom dans les rues. J'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Une histoire où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil.
Ibrahim Malouf, accompagné de Rokia Traoré, nous interprétait à ma manière.
Alors, nous nous sommes quittés avant la pause et on se posait des questions. Alors, on essaie d'avoir les réponses maintenant.
À propos de méditation.
Ouais. Exactement. Donc, trois effets neurologiques majeurs semblent spécifiques à la pleine conscience. Elle agit sur les ondes cérébrales liées au contrôle de l'attention, sur celle de la régulation des émotions, et sur la métacognition, c'est-à-dire le processus mental lié aux pensées que l'on a sur ses propres pensées.
Je vous ai parlé de ça la semaine passée, je pense.
Exactement.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Hein? Alors, des études conduites par Antoine Luz sur la perception de la douleur ont aussi permis de mettre en lumière l'un des effets majeurs de la pleine conscience. Il semble que les changements neurophysiologiques dans certaines de ces régions favorisent un découplage entre les émotions et leur résonance psychologique. Des efforts neurophysiologiques qui semblent de plus ancrés durablement dans le cerveau au fil des ans. De la même manière que vous musclez votre corps avec une pratique sportive régulière, la méditation muscle votre cerveau. On parle alors de plasticité cérébrale. Un mécanisme important, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, permettant à notre cerveau de s'adapter tout au long de notre vie aux situations que nous rencontrons. Donc, une pratique régulière de la méditation de pleine conscience semble renforcer la plasticité des régions impliquées dans le contrôle de l'attention et la régulation des émotions. Avec le temps, ces régions présentent dès lors une densité plus grande de neurones et de connexions neuronales, autrement dit, un accroissement à la fois de la matière grise et de la matière blanche. Donc, on est en évolution, on produit quelque chose là. Mais les effets de la pleine conscience se font sentir bien au-delà du cerveau, signe éloquent de l'interaction profonde entre le corps et l'esprit. Le neuroscientifique Clifford Sarin, professeur à l'Université de Californie, a été l'un des premiers à mettre en évidence l'influence de la méditation sur la longévité des cellules. Son équipe a évalué l'effet d'une retraite intensive de 3 mois sur une enzyme primordiale à la bonne tenue de notre matériel génétique, la télomérase, qui assure la maintenance des télomères, qui sont les extrémités de nos chromosomes érodées par la division cellulaire, qui vient, on le devine, avec l'âge. Or, chez les personnes de retour de retraite méditante, l'activité de cette enzyme bondit de 30 %.
C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal, hein? Nous avons également démontré que chez ces personnes, la taille des télomères était plus élevée que chez celles n'ayant pas médité. Pour la biologiste Perla Kalimann, spécialiste de l'influence des facteurs environnementaux sur le métabolisme cellulaire, tout ceci est cohérent avec le fait que des stress importants réduisent l'activité de la télomérase. Or, on sait de longue date que la pleine conscience réduit le stress. Le stress est en effet connu pour agir comme un trait d'union entre le corps et l'environnement. Il peut le stimuler positivement, par exemple en favorisant la réponse musculaire et l'oxygénation du cerveau face à une situation dangereuse.
Oui, comme quand il y a un dinosaure qui nous court après.
C'est ça, exactement. Mais il peut se révéler toxique lorsqu'il devient chronique et se double de troubles anxieux. Alors, la maladie provoque souvent cet effet-là. Cette voie du stress est donc à double tranchant. La méditation de pleine conscience semble toutefois favoriser le côté le plus bénéfique, de la même manière qu'une meilleure hygiène de vie ou la pratique régulière de l'activité physique est connue pour réduire l'intensité du stress sur l'organisme. Même si la science de la méditation peine à obtenir une vue globale de ces mécanismes, des observations cellulaires et physiologiques semblent confirmer cette hypothèse. Une seule journée de méditation suffirait même à en induire un début de réponse. Après 8 heures de méditation, nous avons observé un changement du niveau d'expression de gènes relié à la régulation des modifications épigénétiques. Ces modifications correspondent en fait à des changements chimiques et structurels de l'ADN, influençant l'expression des gènes dans les cellules. Une fenêtre qui pourrait s'ouvrir sur de nombreux effets positifs, à commencer par le ralentissement de l'horloge interne des cellules. Au cours de la vie, certaines de nos marques épigénétiques évoluent. C'est l'horloge épigénétique. Les individus chez qui le tic-tac de l'horloge va plus vite sont plus exposés aux maladies chroniques. Plusieurs études ont montré que le stress avait tendance à accélérer cette horloge. Mmh. Au sein du projet EpiMed, des chercheurs ont comparé les horloges épigénétiques de méditants experts et de personnes non pratiquantes. Dans cette étude, on a vu que plus les méditants ont pratiqué durant de nombreuses années, plus leur horloge épigénétique est ralentie. Signe que la science de la méditation réserve encore des surprises, mais il faut faire attention à l'emballement. La discipline est jeune et nombre de chercheurs sont désemparés face à l'exagération médiatique que suscite chaque nouveau résultat. De nombreuses études souffrent encore de problèmes de méthode et de publication. Toutes ces réserves, d'ailleurs, ont récemment fait l'objet d'une revue critique consignée par 12 chercheurs de premier rang. Ils appellent à user de sagesse et d'objectivité dans l'interprétation des études en sciences de la méditation, en particulier s'il s'agit d'évaluer ses bienfaits en tant que médecine complémentaire. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, il faut prendre un certain recul et recueillir chaque observation sans jugement partisan. Mm. Mais les recherches sont là et nous apporterons certainement d'autres réponses dans un avenir à moyen et long terme, mm-hmm. certainement. Donc, c'était un article de Jean-Baptiste Veniaras pour la revue Science et Vie de mars 2018.
Oui, ça ouvre des horizons qu'on ne soupçonne pas.
Ah non, c'est incroyable.
J'écoutais lire, puis je me disais, je connais quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques,
ouais.
puis il n'y a aucun... Ouais. Il n'y a rien qui a soulagé, puis je me disais, je devrais lui envoyer cet article-là. Il y a peut-être quelque chose. Là.
Je pense que oui, et puis juste faire un lien, chercher pleine conscience, et vous allez trouver même des exercices sur la respiration que nous commande la méditation et qui peuvent aider. Alors voilà. Alors Marie, on reprend les mathématiques et en fait les pratiques que l'on peut mettre en place pour nos petits-enfants.
Et oui. On retrouve l'égalité.
Et on retrouve l'égalité. C'est la suite du texte de Kiera K. Vaccaro et Anne Lafay qu'on peut trouver sur le site Parlons Apprentissage. Comment donc enseigner l'équivalence aux enfants du primaire? Outre l'utilisation d'objets concrets, on en a parlé tantôt, les chercheurs Rosanna et Adrien suggèrent deux façons de susciter des conversations et d'enseigner le concept d'équivalence et le signe d'égalité. La première suggestion est l'approche par questionnement. Cette approche consiste à présenter des phrases mathématiques non conventionnelles. Donc, je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Par exemple, 3 est égal à 1 plus 2, ou 3 est égal à 3, ou 1 plus 2 est égal à 0 plus 3. Et à demander aux élèves si ces phrases mathématiques sont vraies ou fausses. Dans cette situation, les élèves qui ont une conception opérationnelle du symbole d'égalité expriment souvent que ces phrases sont fausses ou mal écrites. Parfois, ils suggèrent même que pour qu'elles soient vraies, les phrases devraient être écrites de façon conventionnelle. Pour alimenter la réflexion, les chercheurs conseillent de mettre en doute les oppositions présentées par les élèves en présentant d'autres phrases qui répondent à leurs critères, mais qui demeurent non conventionnelles. Par exemple, si les enfants argumentent que la phrase est fausse, car un seul nombre doit normalement se trouver à la droite du signe d'égalité, donc comme la réponse, si vous voulez, l'enseignant pourrait proposer une phrase mathématique comme celle-ci, 3 est égal à 3. La contrainte soulevée par les élèves est ainsi traitée, mais un nouveau défi est aussi présenté, menant alors à des échanges constructifs. Il est important de faire attention aux contraintes soulevées par les élèves, car elles mettent en évidence les conceptions erronées qu'ils ont à propos du symbole d'égalité et du concept d'équivalence. La clé est de bien écouter, et puis de remettre en question les fausses croyances qu'ont les élèves à propos du signe d'égalité en leur montrant une nouvelle phrase non typique à chaque contrainte qu'ils soulèvent. La seconde approche proposée par Rosanna et Adrien est l'approche par explication directe. Le but de cette méthode est d'assister les enfants dans leur développement d'une compréhension conceptuelle du signe d'égalité. Avec cette approche, l'enseignant définit explicitement le symbole d'égalité en démontrant que la quantité à gauche du signe est la même que celle à droite. Il explicite également que le symbole représente une relation entre les nombres de chaque côté et non une demande de calcul. En conclusion, les études démontrent que des discussions, un apprentissage explicite du signe d'égalité ainsi qu'une exposition à des phrases mathématiques non conventionnelles sont essentielles à l'apprentissage du concept d'équivalence et au développement d'une perception relationnelle du symbole d'égalité. Ces façons de faire aident les enfants dans leur apprentissage mathématique au primaire et favoriseront aussi leur apprentissage de concepts mathématiques plus complexes et avancés, par exemple l'algèbre au secondaire. Alors, c'est un texte qu'on peut trouver sur le site parlonsapprentissage.com. Et pour compléter ma séquence, je vous parle donc de... On s'en va dans un... complètement ailleurs.
On va jouer dehors, en
fait. On va jouer dehors, peut-être. Oui. Et on va chercher de l'argent. Ma cour, mes amis, mon école, c'est une initiative que j'ai trouvée sur le site 100degrés.ca. Ça s'écrit CENTDEGRES.ca. Vous faites partie d'une équipe école, vous êtes enseignant, directeur, éducateur, membre d'un conseil d'établissement ou toute autre personne concernée par la réussite et le bien-être des élèves? Si oui, et que vous êtes en plus désireux d'améliorer la situation, mais qu'il vous manque un peu de financement pour mettre vos idées en œuvre, alors cet appel de projet, ce n'est pas un appel d'offre, c'est un appel de projet, vous est destiné. Donc, on parle d'un appel de projet locaux pour les écoles primaires et secondaires du Québec qui souhaitent favoriser le plaisir de bouger dehors. Yvan, tu vas être content. Québec en forme, par le biais de son initiative 100 degrés, souhaite investir auprès des écoles de la province pour la création de cours d'école actives, élément incontournable de la réussite et du bien-être des jeunes. Plus spécifiquement, on vise les initiatives qui favorisent le jeu libre et actif, ainsi que la pratique d'activités physiques et sportives en toute saison par l'aménagement de la cour d'école et des espaces extérieurs, ainsi que par l'accessibilité et à du matériel de jeu. Les projets retenus pourront bénéficier d'un soutien financier jusqu'à la hauteur de 5 000 $.
Oh, c'est intéressant.
Les élèves passent entre 50 % et 70 % de leur temps à l'école en position assise. Hors des cours et des aires extérieures attrayantes, variées, adaptées, sont plus susceptibles de favoriser l'activité physique chez les jeunes. C'est dans ce contexte qu'on souhaite donner un coup de pouce aux écoles. Alors, en allant sur le site parlonsapprentissage.com, on peut télécharger le document synthèse. On y trouve plein de renseignements utiles, des exemples de projets, une vidéo et la date limite pour soumettre un projet. Donc, les demandes doivent être reçues au plus tard le 11 mai à 23h59. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et donc, il faut envoyer la demande sur le web seulement. Voilà.
Est-ce que vous pouvez peut-être, Marie, répéter
l'adresse? Bien sûr que je peux retrouver ça, effectivement. Je vais vous le trouver tout de suite. 100degrés.ca. C'est sur le site 100degrés.ca. On peut trouver cet appel de projet.
Merci beaucoup. Alors, Yvan, encore une personne hors du commun.
Eh oui, pour plusieurs choses,
vous
allez voir.
Oui, c'est fort impressionnant.
Un Canadien veut courir 12 marathons en 12 mois.
Déjà ça, c'est impressionnant.
J'ai même pas l'objectif d'en faire un dans ma vie.
C'est pas vrai. Tu te dis que tu allais en faire un marathon.
Un marathon? Non, j'aime pas ça courir.
Ah.
Fait qu'encore moins courir 42 kilomètres. C'est sous la plume de William Cole qui a écrit pour l'Associated Press et que j'ai retrouvé dans lapresse.ca le 15 avril. Je vais vous lire la version que j'ai vue dans la presse, mais j'ai revu le même article en anglais par M. Cole. La plupart des marathoniens ont besoin de 35 000 pas. Déjà là, ça ne me tente plus. Pour rejoindre le fil d'arrivée, le Canadien John Young en franchit plutôt 80 000. Donc, ça lui prend deux fois plus de pas. Déjà, certains vont commencer à trouver dans la direction dans laquelle je m'en vais. Celui qui enseigne les mathématiques au secondaire appartient à une catégorie d'athlètes rares et déterminés, ceux qui ont surmonté les défis du nanisme pour conquérir la distance de 42,2 km. Plusieurs affrontent non seulement les rigueurs de leur entraînement, mais aussi les commentaires déplacés des autres coureurs. « T'as vu le nain ?» pendant qu'ils brûlent les kilomètres. Mais M. Young est devenu une inspiration pour les autres nains et ses succès lui ont valu respect et admiration à travers le monde. Plusieurs gens dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune, me disaient « Tu ne peux pas faire ça, t'es trop petit, tu pourrais te blesser », a dit l'homme de 52 ans depuis sa résidence de Salem au Massachusetts. J'entendais ça souvent et j'écoutais. Maintenant, je n'écoute plus. M. Young fait partie de l'élite. On connaît seulement 4 athlètes atteints de nanisme qui ont complété un marathon. Et il est celui qui en a couru le plus grand nombre, soit 10, dont 4 à Boston et 3 à New York. Il a aussi complété 50 triathlons, dont l'Ironman du Maryland, et son plus récent objectif est de compléter 12 marathons en 12 mois, en commençant par celui de Boston, lundi dernier. Lundi qu'on vient de passer. M. Young mesure peut-être seulement 1,32 m. Par comparaison, je fais 1,70 m. Mais le directeur du marathon de Boston, David McGillivray, ne connaît personne de plus courageux. C'est un bel exemple d'un individu qui a surmonté ses propres défis physiques et qui a inspiré des milliers de personnes à pourchasser leurs rêves, a-t-il dit. Il s'entraîne et il compétitionne comme n'importe quel autre athlète. Il dit « Je suis qui je suis, je vais réussir à mon niveau et je vais être fier de moi. » Cela n'a pas toujours été le cas pour M. Young. Né à Toronto, atteint d'achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme, il a grandi en foyer d'accueil. Les gens me demandaient « Est-ce que tu vas rejoindre le cirque? Est-ce que tu vas être un lutteur nain? » Est-ce que tu vas être un artiste? Et je me disais non. J'aime l'école, j'aime les mathématiques, je veux aller à l'université. Choisi pour prononcer le discours d'adieu de sa promotion, M. Young nageait et jouait au hockey dans la rue, mais les médecins lui interdisaient de courir pour ne pas risquer de se blesser au dos. Il me disait constamment « Ne cours pas, ne cours pas, ce n'est pas une bonne idée, reste loin de ça », a-t-il raconté. Au fil des ans, le poids de M. Young a atteint 90 kilos.
Mm-hmm.
Par comparaison, c'est mon poids présentement.
Ouais, oui.
Dangereusement obèse pour quelqu'un de sa taille. Et il a commencé à souffrir d'apnée du sommeil.
Oh, mon Dieu.
Il a recommencé à nager et commencé à pédaler pour maigrir. Il s'est inscrit à un triathlon, mais a omis la portion course pour éviter de se blesser. Il a éventuellement cédé à la tentation et un tout nouveau monde s'est ouvert à lui. J'ai découvert que plus je courais, moins j'avais mal au dos, a dit M. Young, dont le style de course lui permet de récupérer très rapidement. Ses collègues, professeurs, ont remarqué les bienfaits que ça avait pour lui. Quand j'ai rencontré John, il s'endormait sur son bureau, raconte son collègue Eric Olson. Aujourd'hui, c'est un type tellement productif. Il oxygène son cerveau. C'est vraiment un athlète d'élite. Il prend ce qu'il fait très au sérieux. Malgré tout, M. Young est encore agacé par les commentaires des autres, surtout s'il vise sa femme Sue et leur fils de 15 ans, Owen, qui sont eux aussi atteints de nanisme. Le pire, dit-il, est quand des étrangers le dépassent pendant une course et disent « Merci d'être là ». Je me dis « Merci à toi aussi », a-t-il expliqué. « Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je ne suis pas là pour eux. Si une portion de mon histoire vous motive, tant mieux. Mais si tout ce que vous voyez est l'aspect physique du nain qui court, alors vous ne comprenez rien. » M. Young n'est pas le plus rapide. Il fait en moyenne 8 minutes par kilomètre et lors d'un marathon, il marche habituellement pendant 1 minute puis court pendant 9. Son meilleur temps est de 5h50. Mais c'est amplement assez rapide pour être une source d'inspiration. Son fils court maintenant sur piste et en cross-country, fracassant même le temps de son père sur 5 km.
Mm-hmm.
L'organisation sans but lucratif « Little People of America » ou les petites personnes d'Amérique, voit en lui un héros. Et M. Young reçoit des courriels de parents de nains qui le remercient d'avoir inspiré leur enfant. « C'est le bout que j'adore », a-t-il dit. « Je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir continuer et je n'ai pas d'échéancier en tête. Je vais continuer à courir aussi longtemps que possible.
Wow. »
Mmh. Alors, c'était un Canadien qui veut courir 12 marathons en 12 mois. Et là, je vais faire un deuxième appel à tous. Pour aujourd'hui.
Mm-hmm.
J'ai cherché hier dans les résultats du marathon de Boston
et
je n'ai pas trouvé son nom. Alors, je sais que la température était atroce lundi à Boston. Alors, je ne sais pas s'il l'a terminé ou non, ou si le temps était trop long et il n'était pas dans la liste. Alors, je fais un appel à tous. Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est arrivé à notre M. Young dans le marathon de Boston, j'apprécierais.
Merci beaucoup, Yvan. Marie, une petite brève?
Oui, après seulement 6 minutes de lecture, le stress baisse de 68%.
Oh mon Dieu!
Alors lisez, les livres prennent soin de nous et de vous. Lisons.
Ben, c'est très bien. Alors mm-hmm. on apprend à respirer, à méditer et à lire.
Voilà.
C'est excellent.
Mm-hmm.
Alors de mon côté, une petite brève archéologie aérienne.
Archéologie aérienne.
Alors écoutez, des satellites espions remontent le temps. En étudiant les images obtenues en Afghanistan par des satellites et drones militaires, des archéologues américains et afghans ont découvert une succession de 119 caravanes sérails datant de la fin du 16e siècle, début du 17e siècle. Ces relais accueillaient des centaines de marchands et leurs animaux voyageant sur la route de la soie. Ils étaient établis tous, Ils étaient établis tous les 20 kilomètres, pardon, environ dans les déserts du sud du pays.
Oh!
N'est-ce pas incroyable?
Oui!
Ça me fait penser qu'il y a un très bon livre sur la recherche de la soie. Ça s'appelle Soie, d'ailleurs.
Oui, très vrai. De ton côté?
Oui, dans mes mythes, les 20 mythes pour, sur l'exercice physique, je suis rendu au troisième. Je suis trop vieux pour m'entraîner. Statistique Canada rapportait en 2010 que 42% des Québécois âgés de 65 ans et plus déclaraient pratiquer une activité physique, donc moins que la moitié des Québécois. La pratique régulière d'une activité physique a des apports indéniables sur la santé à tous âges. Diminution des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'ostéoporose. Diminution des risques de perte d'équilibre, de la force et de l'endurance. Alors...
Un mot d'enfant, Marie?
Un petit gant de laine, parce qu'on en a encore besoin. Petit pull pour la main, selon Tina, 4 ans.
Oh, que c'est joli. Et je pense que ça termine très bien notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Merci à Maurice, qui a vu à la mise en onde et au choix musical. Merci à Marie et Yvan pour le choix de leurs articles.
Merci à
et
toi.
On se dit, en espérant que le printemps soit là,
oui,
la semaine prochaine,
qu'il fasse
beau, je vous souhaite, nous vous souhaitons une belle semaine.
Au revoir. Bonne semaine.